Ça fait un moment que je ne me suis pas retrouvée ici. C'était pas faute de sollicitation, mais j'étais pas prête. Avec tout ce qui s'était passé, c'était un peu dur pour moi de revenir à cette position, on va dire. Mais voilà, en tout cas, merci pour la confiance que l'on m'accorde. Je vais prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que nous sommes là pour toi. Seigneur, nous avons tous choisi ce matin d'être là. Et nous voulons vraiment recevoir ta parole. Seigneur, je ne suis qu'un vase, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas plus inspiré ou quoi que ce soit, Seigneur, mais je suis juste un vase à ta disposition. Et je prie, Seigneur, pour que ce soit ton esprit, Seigneur, qui parle à nos cœurs, que ce soit nourrissant, que ce soit que ça puisse nous exhorter et nous rapprocher de toi, Seigneur. Et que je ne puisse dire que ce que tu veux et que je ne dise pas les choses que tu ne veux pas que je dise, Seigneur. Je suis vraiment un vase et cool, Seigneur, dispose les cœurs à ce que chacun puisse être béni ce matin par ta parole. Amen. Alors, c'est dommage, il n'y a pas Sylviane. D'habitude, elle est toujours là pour me dire « Parle pas trop vite, Florence, et articule !» Mais bon, voilà, je pense quand même à elle. J'ai demandé à mon mari aussi de me faire des signes, si jamais j'accélère ou pas. Mais bon, je vois aussi qu'il y a le temps, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je ferai quelque chose en deux parties, comme ça, je reviendrai. Alors, ce qui m'a inspiré le thème aujourd'hui, bon, c'est quand même classique, hein, la prière, surtout dans une église, c'est quand même, enfin, en tant que chrétien, c'est quand même la base. Mais voilà, cet été, on a eu l'occasion d'aller en Suisse, donc avec ma famille, avec mon mari, avec Simon, et on a eu l'occasion d'aller au musée de la Réforme. Alors, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a aussi le musée du désert dans les Cévennes, en France. Hein. Mais voilà, le musée de la Réforme, moi, je ne l'avais pas fait, j'étais déjà passée en Suisse, mais je n'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et là, voilà, mon mari a eu la bonne idée de dire, bah, tiens, on va y aller. Donc, il y avait des choses que j'avais effectivement déjà lues ou vues, mais c'est toujours passionnant de se replonger dedans. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette histoire, ou même, j'aimerais dire, ces histoires. Parce qu'il y a un vrai engagement de la part de ces hommes et de ces femmes, une passion, et je dirais même une beauté. Parce que quand quelqu'un est à fond dans quelque chose, c'est beau. Alors peu importe ce que c'est, alors quand c'est pour Dieu, c'est encore mieux, mais vous pouvez voir les gens qui sont passionnés par quelque chose, je trouve que ça a quelque chose de très beau. Et donc ces hommes et ces femmes, ils sont imprégnés de la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu, et ça a permis de les transformer déjà eux-mêmes ont été transformés par cette parole de Dieu, ça a transformé les gens autour d'eux, et la société dans laquelle ils vivaient. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, donc je vais peut-être juste donner un tout petit détail. Moi, j'ai grandi du coup dans une famille chrétienne, donc j'ai eu la chance d'entendre parler de Dieu depuis que je suis petite. J'ai eu aussi la chance d'aller aux États-Unis, de faire 2 ans d'école biblique. Donc j'ai été bénie, donc c'était toute la journée, enfin on avait tous les matins, on avait de la louange, on était 1000. Donc vous imaginez, la louange à 1000, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas que c'est mieux, c'est juste que c'est impressionnant quand t'as 1000 personnes. Vous êtes peut-être déjà allé dans des concerts ou autres, ça a quelque chose de fort. Alors en plus là, voilà. Donc voilà, j'étais bénie dans ça, j'ai eu des cours, donc j'ai pu voilà être encore en plus enrichie dans la parole de Dieu. J'ai aussi eu l'occasion de faire une université d'été dans une en France, on avait une union d'églises dans laquelle qui proposait ça. Donc l'université, c'était sur 2 ans. Et donc là, pareil, j'ai pu avoir aussi des cours. Tout ça pour dire que dans cette université, voilà, on a eu la chance d'avoir un cours avec Luc Bussière. Luc Bussière, pour ceux qui ne connaissent pas, il a créé et aidé à beaucoup de créations d'écoles chrétiennes. Et c'est quelqu'un de formidable. Et justement, il nous parlait de la formation des enfants et des jeunes, des ados et des jeunes adultes, à l'époque de la Réforme. Et quand il en parlait, moi, ça m'avait vraiment touchée de voir à quel point les gens qui étaient éduqués dans la parole de Dieu, ils ressortaient tellement solides, tellement pertinents, tellement forts, tellement quelque chose de... Enfin, voilà, quand on a pu voir, on les a étudiés, je ne peux pas vous le faire, ça fera peut-être justement l'objet d'un autre message, parce que je suis partie dans d'autres directions quand j'ai préparé ce message. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça va durer 4 heures, ça va être pire que mon père. Chaque fois, je dis, t'étais un peu long, là, je vais faire pire. Donc, voilà. On dit toujours que quand on critique ses parents, on finit par faire la même chose ou pire. Voilà. Désolée, papa. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, j'ai dit, bon, je vais me concentrer, mais je vais faire une petite parenthèse tout de même sur cette éducation chrétienne. Dans le sens, vraiment, il y a l'éducation chrétienne. Alors, il y a, bien sûr, étudier la Bible, mais ce qu'il expliquait, c'est qu'on peut, bien sûr, tout enseigner. Les sciences avec Dieu, la psychologie avec Dieu. Enfin, tout, parce qu'au final, Dieu est le créateur de toutes choses. Et Voilà, ça peut être très... Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste citer cette phrase de Jean Calvin, donc réformateur français. Là, encore une fois, pareil, dans le musée, on a pu voir l'importance du rôle de la France. La France est un tellement beau pays, et il faut vraiment prier pour notre pays. Mais voilà, mais il y a des belles choses qui sont sorties. Et donc Jean Calvin, qui a eu un grand rôle dans la réforme, disait par rapport à cette éducation chrétienne, « Envoyez-nous du bois, nous vous enverrons des flèches. » J'aime beaucoup cette phrase. Parce que voilà, on a tous le potentiel de faire quelque chose. Mais il faut, pour arriver à un but, pour toucher la cible, c'est sûr que vous pouvez lancer un bout de bois sur une cible, mais elle va juste toucher la cible et ça va retomber. Que si vous envoyez une flèche, elle peut arriver au centre de la cible et vraiment toucher le but. Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase, je la redis. « Envoyez-nous du bois, nous vous enverrons des flèches. » Et donc ces hommes et ces femmes de la réforme, ils ont tenu ferme, beaucoup sont morts pour Dieu. Et pour qu'aujourd'hui on puisse aussi être libre de connaître et de parler de Dieu. Et donc une raison à ces hommes et ces femmes qui leur ont permis de tenir ferme et de vivre ce qu'ils ont vécu, donc je dirais pas que c'est un secret, parce qu'en fait c'est pas un secret, tout le monde le sait, une de ces raisons c'est la prière, et donc la prière efficace. Alors je me suis aperçue en me notant ce titre que ça me rappelait quelque chose qu'on a vu il y a pas longtemps. Si vous vous souvenez, Aurel Vidal, il avait dit quoi, les trois points? C'était quoi le premier point? Vous vous souvenez? La résilience dans la prière. Et du coup, voilà, la résilience dans la prière efficace, ça se recoupe. Et puis bon, pour le jeu de se rappeler, l'autre c'était la disponibilité dans l'obéissance. Et la dernière c'était kindness qu'on a choisi de traduire par miséricorde. Petite parenthèse. Donc voilà, alors, pour la prière efficace, j'ai choisi de me baser sur un père du réveil, Charles Finet, donc 1792-1875, normalement vous le voyez là. Il a vécu 83 ans et il ne s'est converti qu'à l'âge de 29 ans. Moi, j'avais oublié ce détail, mais je veux dire que c'est important, il n'est jamais trop tard. Non, c'est tôt, mais je veux dire, il y en a d'autres qui sont nés justement dans la réforme et qui ont grandi, donc finalement, qui ont grandi dedans. Donc voilà, ça c'est le livre en question, hein, un gros bloc. Je ne vais pas vous le résumer, mais j'ai choisi effectivement de m'inspirer de ça pour parler de la prière efficace. Qui de mieux que les hommes de la réforme pour en parler? D'ailleurs, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres qui parlent de la prière. Je vous l'ai dit juste pour vous donner un exemple. La prière efficace, la prière de la foi, l'esprit de prière, être rempli de l'esprit, les réunions de prière. Voilà, ça c'est que quelques chapitres sur ce grand livre, mais à quel point, voilà, la prière, forcément, est quelque chose de tellement essentiel. C'est dur. Je voulais faire donc la petite parenthèse sur l'éducation. Je vais quand même la faire, et puis c'est pas grave si je coupe mon message. Donc, comme j'ai dit, dans cette réforme, il y a une importance sur le fait d'enseigner les jeunes, les moins jeunes, mais de se fonder sur la parole de Dieu. Puisque la réforme, c'était réformer ses voies, revenir. Dieu seul a Dieu seul la gloire, l'Écriture seule, l'Esprit seul. Donc là, la parole est tellement importante. Et donc l'éducation, c'est au cœur d'un combat. Alors je vais vous faire travailler, parce que moi, j'ai choisi de ne pas faire projeter les versets. Mais vous allez prendre vos Bibles, ouvrir vos Bibles. Alors si vous n'avez pas votre téléphone, parce que parfois maintenant on l'a sur le téléphone, ça va plus vite. Mais je vais vous faire chercher, parce que je pense, pareil, on parle de la parole de Dieu, et c'est important d'aller chercher. Et je ne vais pas vous mâcher le travail. Donc c'est Jérémie 1, 10. Donc Jérémie, Ancien Testament. Je vous laisse un peu de temps pour le trouver. Jérémie 1, verset 10. Il y avait quand je faisais les sessions jeunes, on avait invité une personne qui nous avait fait les... Ah, ça c'est le problème des téléphones. on avait quelqu'un qui était venu et qui nous avait dit, voilà, la Bible, c'est comme quand on va à l'église, c'est aussi important que quand on va à la piscine, il ne faut pas oublier son maillot de bain. Pareil, voilà, la Bible, on l'emmène aussi à l'église. Alors, Jérémie 1:10, vous êtes prêts? Alors, il y aura peut-être des versions différentes, mais le message est le même, donc on suit tous ensemble. « Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les peuples et les royaumes. Tu vas déraciner et démolir, casser et détruire, mais aussi reconstruire et replanter. » Donc là, on voit que l'éducation, c'est un moyen de transmettre une vision du monde. Et notamment, on a cette mission de reconstruire et replanter. on va encore lire deux autres passages qui exposent une vraie différence quand on voit bien la sagesse de Dieu et celle des hommes. Alors c'est parti, on va chercher Jacques, donc quasiment la fin du Nouveau Testament. Jacques 3, versets 15 à 17. Jacques 3, versets 15 à 17. Vous êtes prêts ? Une telle sagesse ne descend pas des cieux. Elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres de toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 1, 19 à 25. 1 Corinthiens 1, 19 à 25. Donc voilà, là, on avait la description de la sagesse, celle des hommes versus celle de Dieu. Donc 1 Corinthiens 1, 19 à 25. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages. Je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors, où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifeste sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les Juifs demandent des preuves, des signes extraordinaires, et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Voilà, donc dans ces deux passages qui ont été choisis, on voit bien cette guerre entre deux sagesses différentes, deux sources différentes. On voit bien quelque chose de distinct entre Dieu et les hommes. Donc par rapport à l'éducation, qu'on m'a présenté, et je trouve tout à fait juste, c'est que connaître les choses indépendamment de Dieu, c'est ça la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça qui n'est pas bien, c'est de connaître sans Dieu, en dehors de Dieu. Toute connaissance hors Dieu, autonome, amène le fruit de la mort. C'est stérile. Par contre, en Jésus sont tous les trésors de la connaissance. La connaissance biblique, c'est un fait avec le sens et en lien avec Dieu. L'intelligence chrétienne, c'est une science qui relie à Dieu, qui relie Dieu à sa création, qui forme un lien, qui relie, qui réconcilie. Et c'est quelque chose dont on va avoir besoin encore plus dans les temps dans lesquels nous vivons. Et encore petite parenthèse par rapport à la France, ce pays que j'aime tant. Il y a une intelligence qui est reliée à la foi. C'est en France que sont nées les premières universités. On a un héritage, une richesse. Bonaventure, au XIIe siècle, disait « Je ne peux pas transmettre de connaissances sans la présence de Dieu. Une intelligence qui adore, c'est l'héritage de la France. » La France est appelée à enseigner les nations avec la pensée du Christ. Donc revenir à l'arbre de la vie. Et donc à cette petite phrase qui va faire ma petite transition, c'est que quand il y a un réveil, il y a un fardeau pour l'enseignement. Et c'est vrai que l'enseignement, vous le savez, est très important si on veut aller plus loin. Allez, je vous fais chercher un dernier passage. Jacques 5, 16. Puisque c'est le verset qui est la base de cette prédication. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'on va se pencher sur ce réveil, sur cette prière. Pardon. Parce qu'il y a deux moyens. Alors, encore une fois, je répète, c'est pas moi qui tout produit, ce n'est pas ma révélation. Je me suis basée sur Finet, donc j'ai repris ses mots, j'ai repris son texte, j'ai repris ce que lui a reçu de la part du Seigneur. Par ailleurs, des fois, c'est dit d'une manière assez. On parle plus trop comme ça aujourd'hui, on a peur, on met un peu, on arrondit les angles parce qu'on a peur de déranger. Des fois, je dis là, je fais, oulala, ça va être sympa quand je vais dire ça demain. Mais c'est voilà, ce sont quand même des pères de la foi qui ont eu des résultats. Donc, si on veut s'en inspirer, enfin, si on veut arriver à des résultats aussi dans notre vie, faut s'inspirer des gens qui ont réussi. Et ça, dans le monde, on le dit bien. Donc, pourquoi est-ce que dans l'église, on ne ferait pas la même chose? De s'inspirer d'un, bien sûr, notre première source, c'est Jésus, c'est Dieu. Et après, il y a tous ces hommes, ces ministres, ces hommes de Dieu qui ont vécu des choses extraordinaires, et donc inspirons-nous de ce qu'ils nous ont transmis. Et donc voilà, donc ce que je vais partager, ça sort de ce livre. Donc voilà, il y a deux moyens nécessaires pour produire un réveil. Il y a la vérité pour agir sur les hommes, et la prière pour agir sur Dieu. Alors, quand on dit d'agir sur Dieu, on va pas changer l'esprit, le caractère ou les intentions de Dieu, mais la prière produit en nous un changement qui permet à Dieu de faire ce qu'il ne pourrait pas faire sans ça. Quand un pécheur se repent, cette disposition met Dieu dans la possibilité de lui pardonner. Dieu, il a toujours été prêt à nous pardonner. Mais si nous, on ne se met pas dans cette acceptation du pardon, il ne se passera pas le pardon. Il n'arrivera pas. Et il y a besoin de ce changement. Quand les chrétiens font monter des prières à Dieu, des prières ferventes ou des efficaces, c'est cet état de l'âme qui permet à Dieu de répondre par des bénédictions. Parce que lui, il était toujours prêt à accorder des grâces, ses grâces, à ceux qui se mettaient dans les bonnes dispositions et qui prieraient selon sa volonté. Donc la prière, c'est essentiel, mais elle est aussi nécessaire que la vérité. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. La vérité, sans l'esprit de prière, elle pourrait peut-être être trop dure. Parce qu'on ne peut pas juste proclamer la vérité sans l'Esprit de Dieu. Et inversement, si on ne fait que prier, mais qu'on n'agit pas, il va peut-être manquer quelque chose. Il faut que les deux travaillent de pair. Qu'est-ce qu'est exactement la prière efficace ? La prière efficace, c'est celle qui obtient ce qu'elle demande. Ce n'est pas juste des bons désirs, des bonnes intentions, même si ça peut être agréable à Dieu, mais des désirs ne sont pas des prières. La prière efficace est autre chose, c'est une prière qui obtient la bénédiction qu'elle recherche, elle agit sur Dieu, elle effectue son objet, elle arrive à son but. Et donc il donne des attributs essentiels de cette prière efficace. La première, c'est qu'il faut prier pour un objet défini. Il ne faut pas prier... En gros, il ne faut pas prier par hasard, il ne faut pas se dire « tiens, je vais juste laisser aller mes pensées », mais il faut un objet défini. Il donnait l'exemple, qui m'a parlé aussi effectivement, parfois on se dit « bah tiens, je vais aller dans ma chambre, je vais fermer la porte, je vais me mettre à prier ». Et au lieu de choisir vraiment bien les sujets, clairement, on va juste se mettre à prier par tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous passe par l'esprit, etc. Et en sortant de là, on se dit « bah tiens, finalement j'ai prié, pourquoi ? Parce qu'on a été peut-être... Alors, encore une fois, ce n'est pas condamnable, mais si on veut une prière efficace, il faut un but défini. J'ai rajouté un exemple qui me parlait. C'est, par exemple, dans le monde du travail, souvent, on dit un seul sujet par mail. Et c'est vrai. Moi, ça m'arrive parfois, je veux gagner du temps, pas écrire 36 mails. Je mets 3 sujets différents dans le mail, j'envoie. Et puis, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Soit j'ai qu'une seule réponse, soit j'ai réponse à rien parce qu'il est reparti sur autre chose. Et c'est vrai, c'est juste aussi bête que ça, parfois. Si on met trop de choses dans un seul mail, pourtant, c'est pas compliqué, c'est écrit en plus. Mais non, c'est comme ça. Donc, similarité, voilà, être vraiment fixé, un seul objectif. Donc, un homme doit donc avoir devant lui, dans sa prière, un objet défini. Il ne peut prier de manière efficace pour une variété d'objets à la fois. L'esprit de l'homme, et j'ai rajouté de la femme, donc l'homme avec un grand H, même si on dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps, malgré tout, nous sommes constitués de manière à ce qu'on ne peut fixer nos désirs avec intensité sur plusieurs choses en même temps. Les exemples de prières efficaces dans la Bible, on les voit, ce sont celles qui ont été une prière avec un objet bien défini. Alors, ça ne veut pas dire que par jour, on ne peut prier que pour une seule chose. Comprenez bien. Mais effectivement, dans notre façon de prier, il faut être très clair. Le deuxième point, La prière, pour être efficace, doit être d'accord avec la volonté révélée de Dieu. Alors, prier pour des choses contraires à la volonté révélée, c'est bien sûr tenter Dieu. Donc, pas bon. Dieu a révélé sa volonté aux hommes de trois manières différentes pour les diriger dans la prière. Par des promesses qu'on peut voir dans la Bible. Il dit qu'il va faire telle chose. Il a fait des promesses spéciales. Et il a pu dire, par exemple, quoi que ce soit que vous désiriez quand vous priez, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. Donc, il peut parler par des promesses. Il peut parler par sa providence. Alors, c'est vrai que ce mot-là, on ne l'utilise plus trop. Donc, j'ai bien regardé ce que ça voulait dire. C'est l'action divine sur le monde. Donc, Dieu agit, on le voit, on voit son action. Et parfois, Dieu parle de cette manière-là. Donc, quand il montre clairement que tel ou tel événement va avoir lieu, c'est aussi une révélation qui est valable, bien évidemment. Parce que Dieu ne pouvait pas forcément tout révéler dans la Bible. Et il nous aide à travers ce qui peut se passer dans notre quotidien. Donc, il y a des choses, on voit son action dans nos vies. Et la troisième, c'est par son esprit. Et c'est là l'importance d'être rempli de l'esprit de Dieu, puisqu'on doit être sans cesse en relation avec son esprit pour savoir où il veut nous emmener, ce pourquoi il veut que nous prions. Il y a aussi ce verset qui dit « L'esprit nous soulage de nos infirmités. » Un autre verset, « Il intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. » Donc, j'espère que je ne suis pas trop fouillie, j'essaye d'être plus clair possible. Mais voilà, c'est cette importance d'être vraiment rempli par l'esprit. C'est vrai que des fois, on peut se retrouver à prier et ne pas savoir dans quel sens aller, ne pas savoir quoi dire. On a peut-être eu une promesse, on a peut-être vu Dieu agir, mais au moment de prier, on ne sait plus trop. Et c'est là que l'esprit nous aide, nous pousse. Alors parfois, on lui demande de nous aider, il peut parler à travers des mots de notre langue, parfois ça peut être à travers le parler en langue où il parle à travers nous, et parfois on ne sait pas forcément ce qu'on dit, mais notre esprit sait, il a la sensation de savoir, enfin, voilà, le ressenti, de dire « Ah bah, je ne sais pas ce que j'ai dit avec des mots, mais je sais que mon cœur, il était sur tel sujet. » Et ça, c'est quelque chose d'effectivement très fort et très important et qui nous dépasse, qui est incompréhensible pour notre esprit humain, mais qui est vraiment fort. Et quand on se laisse porter comme ça par son esprit, on se sent beaucoup plus... Je ne sais pas comment dire. On se sent bien et on se dit « Je sens que voilà, j'ai fait la volonté de Dieu, je sens que j'ai pu prier selon son cœur. » Et ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Donc, voilà, il faut être rempli de l'esprit pour pouvoir aussi prier de cette manière-là. Troisième point, pour prier avec efficacité, il faut prier avec un cœur soumis à la volonté de Dieu. Alors là, il a fait une différence qui n'a pas forcément été facile à retranscrire. Donc, je vais quand même essayer de le faire avec fidélité. Il explique qu'il ne faut pas confondre la soumission avec l'indifférence. La soumission, c'est céder le pouvoir à un autre. L'indifférence, c'est un détachement à l'égard d'une chose ou d'un événement. Et là, il donne l'exemple d'une personne qui vient dans une réunion de prière, qui n'a pas forcément cet esprit de prière. Il dit qu'il pouvait être choqué de la manière dont les frères pouvaient prier comme si Dieu ne pouvait refuser leurs demandes et les accusait quelque part d'une hardiesse, un petit peu. Et il ne cessait d'insister sur l'importance de prier avec soumission. Mais en fait, là, il y avait cette différence, en fait. Parce que ce n'était pas imposer quelque chose à Dieu, mais c'est de savoir que le pouvoir appartient à Dieu et qu'on prie de tout notre cœur, mais pas d'indifférence. On prie en sachant que Dieu fera la volonté. Je vais essayer d'aller plus loin. Sa volonté, oui. De pas non plus, dans l'autre sens, ne pas confondre la soumission avec une confiance que Dieu fera ce qui est bien. Bien sûr, Dieu va faire ce qui est bien, mais c'est lui qui est Dieu et qui va faire, qui va accomplir sa volonté. Se soumettre à un commandement de Dieu, c'est lui obéir. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est plus simple avec l'exemple. Quand David avait un enfant malade, vous vous souvenez dans l'histoire, il a lutté et prié jusqu'à ce, enfin, à 100%. Il a vraiment demandé que Dieu agisse. Il voulait pas, je crois qu'il y avait les pleureuses, etc. Il dit non, 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 là, moi, je prie, je prie, je prie, je prie. Et jusqu'à ce que l'enfant, finalement, meure. Et une fois que l'enfant était mort, là, il a posé sa douleur. Il a accepté de nouveau de manger, de boire. Et il a accepté la volonté de Dieu. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est que tant que l'enfant vivait encore, David ne pouvait pas forcément savoir quelle était la volonté de Dieu. Donc il a prié, il a jeûné, et il a dit « Qui peut me dire si Dieu ne sera pas favorable de sorte que mon enfant vive ?» Et donc là, il a prié, lutté jusqu'à ce que la providence, donc l'action de Dieu dans la vie, se manifeste. Et une fois que la volonté de Dieu a été posée, il a accepté la volonté de Dieu. Voilà, j'ai trouvé ça assez, pas forcément évident à transmettre comme nuance. Du coup, je me suis un peu penchée pour la comprendre, mais j'espère que vous saisissez un petit peu ça. C'est vraiment soumis à la volonté de Dieu. Donc, je prie jusqu'à ce que je vois la main de Dieu, que ce soit la réponse qu'on attendait ou pas. Mais tant que c'est la réponse de Dieu qui se fait. Et même, d'ailleurs, on voit qu'il accepte la volonté de Dieu, puisque David dit, une fois qu'il a appris que son enfant est mort, qu'il dit « J'irai à lui, mais il ne reviendra pas à moi ». Donc c'est ça, la véritable soumission. Même si je pense que voilà, ça doit être déchirant pour un parent de perdre son enfant, il a accepté la volonté de Dieu. Donc ça, c'était pour prier avec efficacité, il faut prier avec un cœur soumis à la volonté de Dieu. Le quatrième point, c'est la prière efficace pour un objet implique un désir de l'obtenir qui soit en proportion avec son importance. Alors, j'ai gardé un peu les phrases un peu plus riches en vocabulaire parce que je crois que ça avait quelque chose à avoir un poids. Mais voilà, j'espère que vous les saisissez bien en tout cas. Donc c'est le fait que vraiment le fait de vouloir l'obtenir soit fort et du coup, j'agis en conséquence. Alors, vous le voyez avec les enfants, quand ils veulent quelque chose très très fortement, enfin même nous, hein, on peut être têtu, on fait tout pour l'avoir, on fait tout ce qu'on peut. Et bien dans la prière, c'est pareil. Désolée, je réfléchis. Comment transmettre cela ? On pouvait voir, bien sûr, l'exemple de Jésus, quand il demandait quelque chose, il était confiant envers Dieu, et il le demandait, on a pu le voir aussi, on en parlera plus tard, mais dans le jardin de Gethsémani, se donner à fond. On peut compter sur le fait que Dieu est bienveillant. Donc il y a une bienveillance de Dieu. Et donc on peut supposer que si ce que nous demandons est bon, il pourra nous l'accorder. On voit aussi le fait que Dieu peut mettre en nous un désir et qui nous pousse à prier pour ça. Et parfois on est vraiment à fond, on est vraiment engagé pour prier pour quelque chose. Ça peut être pour prier pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui désire changer de vie. Il y a des tonnes de raisons, mais je pense que vous pouvez penser à un exemple de votre vie pour lequel vous avez été poussé à prier pour quelque chose, même si à la rigueur, humainement, à la base, ça ne vous touchait pas plus que ça. Mais tout d'un coup, vous avez pris ça à cœur. Et là, vous pouvez dire, c'est le Seigneur, vraiment, qui a mis ce désir en nous. Et il y a, par exemple, Jacob. Quand il a lutté dans la prière, il a dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Est-ce que Dieu a été offensé par cette, on dirait peut-être, arrogance ? Mais non, il lui a donné sa demande, il lui a accordé. De la même manière, et cet exemple, je l'aime beaucoup, de Moïse. C'est dans Exode 32, quand Moïse était monté chercher les lois, les commandements, il redescend et le peuple, quelques jours, il était retombé dans l'idolâtrie, il avait fabriqué un veau d'or. Et là, Dieu s'est quand même fâché, il a dit à Moïse, « Laisse-moi que je les détruise et que j'efface leur nom de dessous le ciel et je te ferai être une nation plus puissante et plus grande qu'eux. » Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse ? Moi, j'avoue, j'aurais peut-être dit, allez, vas-y. Mais non. Il n'est pas parti en disant, allez, vas-y, fais-le. Il a dit, non, il a pensé aux Égyptiens. Et il s'est dit, mais non, qu'est-ce qu'ils vont penser, eux? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que Dieu a fait sortir les Israélites pour leur malheur? Et là, c'est comme si Moïse s'était emparé de la main de Dieu, qui avait déjà prêt à frapper, et il s'est interposé en disant, voilà, non, Seigneur, fais pas ça. Et est-ce que Dieu s'est offensé que Moïse se mette, entre guillemets, en travers de son chemin? Non, pas du tout. Il a même écouté la voix de Moïse, qu'il appelait d'ailleurs son ami. Et là, il y avait comme... Moïse s'est mis à la brèche pour ce peuple qui, honnêtement, humainement, c'est vrai qu'on se aurait dit, mais zigouille-les tous, on va recommencer à zéro, ça sera plus simple. Mais non, non, Moïse, il avait ce cœur pour ce peuple. Et Dieu aussi avait ce cœur pour ce peuple. Et il s'est mis sur la brèche. Et il intercédait devant Dieu pour dire non, non, épargne-les. Et nous, parfois, on peut avoir aussi ce désir-là. Et moi, c'est vrai que... Alors, j'ai encore du progrès à faire, mais j'ai vraiment ce désir pour la France. Parfois, on a envie de dire, oui, Seigneur, détruis tout et on recommence, parce que là, on est un peu dans une situation compliquée, mais non, le peuple est un beau peuple. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a un héritage, on a un héritage spirituel aussi. Et on a un rôle à faire dans le monde. On l'a vu pour la réforme en France, il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées. Donc voilà, on peut avoir aussi cette prière qui Dieu a mis ce feu en nous pour prier pour une cause, pour quelqu'un, pour quelque chose. Donc parfois on peut être un peu, on peut sembler arrogant dans ça, mais en fait c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur et on se bat pour ça. La prière, pour être efficace, doit être inspirée par des motifs convenables. En de simples termes, la prière ne doit pas être égoïste. Elle doit venir d'un intérêt profond que nous portons à la gloire de Dieu. Une autre façon de le dire, un attachement suprême à la gloire de Dieu. Quand on prie pour quelque chose, c'est pas pour nos désirs égoïstes, pour notre bien-être, mais pour que Dieu se glorifie. Et là, c'est un peu dur la façon dont il le dit, mais quand on y réfléchit, c'est vrai. Il donne l'exemple de femmes qui peuvent prier pour leur mari qui ne sont pas convertis, qui disent « voilà, ce serait plus agréable que mon mari vienne aux assemblées », ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais au final, ce qui est plus important que ça, c'est que ces maris ou ces femmes, hein, peu importe, déshonorent Dieu par leur péché, et le but, ce serait plutôt que Dieu serait glorifié par leur conversion. C'est pas tant que, et bien sûr, et je suis tout cœur avec ceux qui ont des conjoints convertis, bien sûr que ce serait plus agréable d'être accompagné, mais le plus beau et le plus important, c'est que ces hommes et ces femmes glorifient Dieu. Et qu'ils cessent d'être dans le péché, donc du coup d'être à côté de la cible, mais qu'ils vraiment puissent sauver Dieu. Et de même, parfois, il donne exemple aussi avec les parents qui prient pour un enfant et qui sont tristes pour leur enfant qui n'appartient pas à Dieu, mais du coup, quand on leur en parle, ils disent « oui, mais non, mais au moins il est gentil ». Il est bien élevé, mais c'est pas ça qui est important. C'est bien, tant mieux. Mais c'est encore une fois, c'est que ce qui est important, c'est pas tant qu'il n'aille pas en enfer, mais c'est qu'il puisse glorifier Dieu. Et c'est un peu dur dit comme ça, mais vous voyez la base, c'est que le plus important, c'est que Dieu soit glorifié. Donc, il faut que nos pensées s'élèvent plus haut que notre niveau, plus haut que ce que nous on voudrait, et pour que nos prières soient efficaces auprès d'un Dieu saint. Il faut que ces prières ne soient pas égoïstes, ne soient pas centrées sur nous, mais centrées sur lui et centrées sur sa gloire. Sixième point, la prière pour être efficace doit se faire par l'intercession du Saint-Esprit. Donc ça, on en a déjà un peu parlé, mais c'est tellement important. Vous ne pourrez prier conformément à la volonté de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Si on prie de manière humaine, si on n'est pas influencé par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas faire des prières qui lui sont agréables. C'est l'Esprit seul qui peut produire la foi sans laquelle la prière est inefficace. Donc justement, il y a un autre chapitre, je vous ai dit, il y a la prière de la foi, il développe un peu tout ça. Mais voilà, de nos propres connaissances, de notre propre capacité, on ne peut pas à faire cette prière efficace. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être rempli de son Esprit pour pouvoir intercéder. Et même, on peut être, nous, à court de mots. On peut être à court de... Parfois, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, nos sentiments. Et c'est là aussi que l'Esprit de Dieu, lui, il maîtrise totalement le vocabulaire, l'expression. Et il vient nous aider quand nous, on ne peut plus. Ou bien quand on a prié pendant 10 ans pour la même chose, même si c'était qu'un seul sujet, ça peut être fatigant, décourageant, éprouvant. Et du coup, on demande l'aide du Saint-Esprit pour continuer de prier pour ce sujet. Parce qu'on ne sait plus comment prier. Parce qu'on ne sait plus quel mot utiliser. On se dit, Seigneur, ça fait... Ces mots-là, tu les as entendus 40 000 fois. Ben, le Saint-Esprit peut renouveler. Et du coup, voilà, vraiment, on a besoin du Saint-Esprit pour faire cette prière efficace. 7e point, pas une surprise, la prière doit être persévérante. Et là, il dit que les chrétiens qui ont reculé, qui se sont un peu éloignés de Dieu, ils peuvent avoir perdu l'esprit de prière. Et du coup, ils ont du mal à retrouver cette habitude de persévérance dans la prière. D'une manière générale, je trouve qu'en tant qu'être humain, en tout cas, moi je le vois chez moi, hein, j'ai du mal à faire les choses de manière persévérante. On se fixe des bonnes habitudes, on essaie de faire des choses. Ça tient une semaine, 2 semaines, quelques mois peut-être, et on a du mal. On est... feignant peut-être sur les bords, en tout cas je l'avoue. Mais voilà, on a du mal à persévérer. Et là encore une fois, dans la prière, on a besoin. Et pour ça, il faut que notre esprit soit bien disposé, et bien disposé à se laisser remplir par l'Esprit Saint. Je vais essayer de raccourcir un peu mes points, parce qu'il y en a quand même pas mal. En tout cas, bon, voilà. La persévérance, je pense que vous connaissez. Et elle est très, très importante. Il donnait l'exemple du fait que, voilà, une mère qui a son enfant malade, ou un père, même si elle continue sa journée, elle va penser à ça toute la journée. Et du coup, c'est un peu ça, cette prière, ce long soupir qui continue. C'est que vous êtes peut-être en train de faire la cuisine, être au travail, vous pensez à cet enfant qui est malade. Vous vous inquiétez, vous dites « Ah là là, mince, il y a ça ». Même la nuit, vous pouvez rêver qu'il se passe quelque chose et mince, ça va pas. Et vous êtes constamment en train d'y penser. Et c'est l'exemple qui dit bah, « C'est ça, cette prière persévérante ». C'est que même si vous n'êtes pas présent dans la pièce à ce moment-là, vous pensez à ça et vous priez pour ça. Et... il faut vraiment être dans cet état d'esprit pour offrir cette prière efficace. Dans la Bible, il donne l'exemple de Jacob qui lutta toute une nuit en prière avec Dieu. Et c'est pareil, je vous redonne le contexte parce qu'il est assez intéressant. C'est qu'il savait, donc avant, pendant cet événement-là, quand il luttait avec un ange, l'historique, c'est qu'il savait qu'il avait offensé son frère Ésaü puisqu'il lui avait volé son droit d'aînesse. Et il y avait un moment qu'il s'était passé ça. Et là, ce fameux frère Ésaü, il vient vers lui avec plutôt une intention d'attaque. Il est bien armé et tout ça. Et du coup, Jacob, il savait qu'il n'avait pas les capables de résister. Donc, il se dit, bah, forcément, mon frère, il va se venger. Donc là, c'est un peu la cata. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'apaiser son frère en envoyant des cadeaux, puis sa famille. Mais il place les gens qu'il préfère plutôt sur le fond, pas au devant. Et il essaye de faire ce qu'il peut pour amadouer son frère. Mais du coup, forcément, il est travaillé parce qu'il sait que il a péché. Et donc là, il est en combat toute la nuit avec cet ange. Et au moment où l'ange dit « je vais partir, laisse-moi aller », Jacob, à ce moment-là, il veut pas abandonner la lutte pour laquelle il se battait. Il dit « je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Et là, il était à un tel point où, en mode, je suis à l'agonie, je ne peux plus rien faire d'autre, j'ai vraiment besoin, je vais la chercher, cette bénédiction, je la demande. Et du coup, l'ange l'a béni. Mais ce qui est important aussi, ce qu'on voit dans cet exemple, c'est qu'il a obtenu la bénédiction, mais aussi, pour le reste de sa vie, il va porter les marques de ce combat. Vous savez, Jacob, du coup, il boite. Il a été touché à la hanche et du coup, il boite. Et du coup, même son corps avait été affecté par les combats de son âme. Et c'est ça aussi parfois, alors je ne dis pas qu'on va tous finir marqués dans notre corps, mais c'est qu'il y a une lutte qui doit se faire. Alors, bon, l'exemple est imparfait, tout exemple est imparfait, mais regardez un enfant qui vous demande quelque chose, parfois, je peux maman, je peux avoir ça, papa, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça, qui demande et qui redemande et qui redemande, c'est incessant. Et du coup, bah, nous, on doit faire la même chose, parce que parfois, on va juste dire, ah, Seigneur, je pourrais avoir ça, et puis bon, pas de réponse, allez, on passe à autre chose. Mais quand on désire vraiment quelque chose, quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu qui nous pousse, et là, on va se battre pour ça. Et on va vraiment être... En tout cas, c'est ce à quoi Dieu nous appelle dans cette prière efficace, dans cette prière qui obtient des bénédictions, qui obtient réponse. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a sué des gouttes de sang. Je ne pense pas que ça arrive à beaucoup de monde, mais en tout cas, c'est un exemple. Il y a d'autres, dans les réveils, ils ont pu, par contre, physiquement transpirer tellement ils étaient à fond dans la prière, tellement ils étaient... engagé dans ce pourquoi il priait. Et je donne aussi des passages de l'Écriture qui parlent de ça, à quel point parfois notre corps est engagé aussi dans cette prière. Donc j'ai pas noté les références, mais si jamais vous les voulez, je vous les retrouverai. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Des ruisseaux de larmes coulent de mes yeux parce que personne n'observe ta loi. Mes entrailles, la douleur me serre le cœur me bat, je ne puis me taire. Ou encore Mardoché, lorsqu'il vit son peuple en train d'être détruit, il a déchiré ses vêtements, pris le sac et la cendre, et il est sorti de la ville en poussant des cris de douleur. Et ça, ce sont des prières qui sont efficaces auprès de Dieu, où on s'engage, on s'investit pleinement. Et il donne aussi bien sûr le fait que dans beaucoup de grands mouvements religieux, la réforme, des réveils ou autres, il y a eu beaucoup, les gens étaient, il dit, atterrés par l'agonie de leurs prières. Et quelques-uns semblaient prêts d'en mourir. Voilà, j'ai encore du travail, j'avoue, je n'en suis pas là. Mais c'est ce vers quoi on veut tendre, si on veut aussi voir des choses se passer dans notre vie, dans notre entourage, dans notre ville, dans notre société, dans notre beau pays de France, dans le monde. Et c'est ce à quoi on est appelé à vivre ensemble. Huitième point, si vous voulez prier avec efficacité, il vous faut prier beaucoup. Petite anecdote qui donne, on dit de l'apôtre Jacques qu'après sa mort, on trouva ses genoux calleux comme ceux d'un chameau, tant il avait prié. Ah, c'est là le secret du succès de ces hommes de Dieu des premiers temps. Petite anecdote, vous n'êtes pas obligé de prier à genoux, mais en tout cas, priez beaucoup. Si on veut voir une prière efficace, il faut prier beaucoup. Neuvième point, si vous voulez que votre prière soit efficace, il faut l'offrir au nom du Christ. Vous savez que vous priez, vous présentez devant Dieu en votre propre nom. Vous ne pouvez pas appuyer sur vos mérites. Mais par contre, vous pouvez vous présenter avec un nom qui est toujours acceptable, celui de Christ. Il donne l'exemple. Si vous vous présentez à la banque avec une traite endossée par Rothschild, aujourd'hui on dirait plutôt Bill Gates, ce serait vous couvrir de son nom. Et vous savez que la banque vous donnerait votre argent aussi bien qu'à lui-même. Alors, je fais une petite recherche parce que j'avoue que moi, que la traite, ça ne me parle pas trop. Je sais que c'est quelque chose de bancaire, mais je ne vois pas la différence avec un chèque. Donc, j'étais à chercher pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la différence entre un chèque personnel et une traite bancaire. La traite bancaire est une garantie par l'institution financière. Le bénéficiaire de la traite bancaire est assuré de recevoir le montant de la traite. Une traite bancaire ne peut pas être annulée une fois qu'elle a été livrée au bénéficiaire. Je ne savais pas. Donc forcément, un chèque, il peut être annulé, il peut être bloqué. Par contre, la traite, apparemment, pas. Et là, effectivement, c'est avec ça. Avec Jésus, il n'y a pas de retour en arrière. C'est quelque chose de sûr. Quand vous priez au nom de Jésus, au nom de Christ, c'est que vous pouvez obtenir autant que lui-même. Donc voilà, se souvenir que quand vous vous présentez devant Dieu, vous ne priez pas en votre nom, mais vous priez au nom de Jésus-Christ. 10. Pour que votre prière soit efficace, il faut renoncer à tous vos péchés. Il ne vous suffit pas seulement de vous en souvenir et de vous repentir, mais il faut renoncer réellement. Rompre avec eux dans la résolution de votre cœur, les quitter tous et pour toujours. Là aussi, on a peut-être du chemin, mais voilà, c'est effectivement, nous avons un Dieu saint, nous servons un Dieu saint, et pour ça, on doit être saint. Et on est saint en Christ, mais notre ancienne nature est toujours un peu là, et il faut... Il travaillait aussi à vraiment se séparer du péché. J'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Il vous faut, pour finir, il vous faut prier avec foi. C'est-à-dire attendre à obtenir ce que vous demandez. Vous ne devez même pas penser à prier si vous ne vous attendez pas à être exaucé, en fait. Il faut persévérer dans la foi, enfin persévérer dans la prière avec la foi. Quand c'est indiqué dans sa parole, vous pouvez être sûr que ça va s'accomplir. Quand c'est indiqué par, quand Dieu l'indique par sa providence, dans son action dans le monde, vous pouvez vous y fier en proportion gardée. Et bien sûr aussi, quand Dieu vous le met à cœur, bah, allez-y, priez, foncez. Le tout, bien sûr, conduit par l'Esprit de Dieu, mais aussi les uns avec les autres, parce qu'on peut aussi s'égarer. C'est d'où l'importance d'être dans l'Église. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous pouvez aussi vous perdre dans vos pensées ou dans la façon de voir les choses. Donc ça, c'est aussi important. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, de vraiment être dans cette foi que Dieu est un Dieu bon et qui va agir et qui nous donne son esprit pour intercéder. Je vais les redire juste, les grandes lignes, pour que vous puissiez les réentendre. Donc, la prière efficace. Je relis le verset. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il faut prier pour un objet défini, clair, précis. Pour être efficace, la prière doit être en accord avec la volonté révélée de Dieu. Pour prier avec efficacité, il faut prier avec un cœur soumis à la volonté de Dieu. La prière efficace implique un désir de l'obtenir qui soit en proportion avec son importance. La prière, pour être efficace, doit être inspirée par des motifs convenables et non égoïstes. La prière, pour être efficace, doit se faire par l'intercession du Saint-Esprit. La prière doit être persévérante et abondante. Il vous faut prier beaucoup. Si vous voulez que votre prière soit efficace, il faut l'offrir au nom de Christ. Pour que votre prière soit efficace, il faut renoncer à tous vos péchés. Et enfin, il vous faut prier avec foi. Donc voilà, c'était Charles Finet qui nous a transmis cette... Encore une fois, je n'ai pas envie de parler de secret, parce qu'au final, ce n'est pas un secret. La prière, c'est depuis le début, on le sait que c'est important. Ce sont juste des clés qui nous aident à comment prier. Les disciples ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et il nous a donné le Notre Père. Ça, pareil, c'est hyper intéressant à étudier, cette prière. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des clés qui nous sont données pour pouvoir prier de manière claire. Tout à l'heure, je vous ai donné cette phrase que j'aime beaucoup. « Envoyez-nous du bois, nous vous enverrons des flèches ». Avec une flèche, on peut être plus... voire plus la cible, on peut être plus pertinent. Et voilà, pour prier de manière pertinente aussi, on peut avoir ces choses-là dans la vie. Et on a besoin d'aide, c'est sûr, personne n'y est. J'ai bien mis « nous », parce que je ne suis pas au-dessus de ça. Je suis la première concernée par tout ça. Mais voilà, on a besoin aussi des uns des autres. On a besoin du Seigneur pour réussir à ça. Je vais finir par la prière. Et je vous remercie. Seigneur, merci pour... ces hommes et ces femmes de foi qui ont passé beaucoup de temps dans la prière, Seigneur, à te chercher, à te rencontrer et à prier ce pourquoi tu avais mis un désir sur leur cœur. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir être à leur image, d'abord à ton image à toi, mais de nous inspirer de ces choses qui nous ont léguées, Seigneur, de cet héritage. Seigneur, nous avons effectivement tous besoin d'apprendre à prier toujours plus, à apprendre à mieux prier selon ton cœur. Seigneur, viens et donne-nous cet esprit de prière. Seigneur, nous en avons besoin. Nous ne sommes pas suffisamment aguerris à cet exercice. Même si, voilà, pour certains, ça fait des années qu'ils sont dans la prière. Seigneur, mais on a toujours besoin d'être renouvelés. On a toujours besoin, Seigneur, d'aller plus loin et de se remettre en question et de te chercher. Seigneur, merci parce que tu nous... Pour chacun ici, Seigneur, il y a des sujets de prière qui peuvent être là et qui sont là depuis peut-être des années, ou des sujets de prière qui sont douloureux, Seigneur. Et donne-nous un renouveau, Seigneur, dans cette prière, afin que nous puissions avoir nos prières qui soient efficaces, on peut voir des bénédictions. Merci déjà pour toutes celles où tu as répondu, Seigneur, parce que nous ne voulons pas non plus être dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour toutes les réponses que tu nous as données. Mais Seigneur, nous voulons encore plus, parce que tu nous appelles à aller plus loin, à chercher plus, à être... Seigneur, tu as dit qu'on pourrait faire des miracles comme le Christ, comme Jésus. Et on a... Voilà, donc on peut aspirer à plus, on peut aspirer à aller chercher encore plus ta présence, Seigneur. Vraiment, viens pour sur chacun d'entre nous. Accorde-nous cet esprit de prière et donne-nous le vouloir et le faire afin que nous puissions rentrer dans cet état d'esprit de prière, Seigneur. Encore merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour envers nous. Et je prie, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, chacun puisse retenir que vraiment ce qui a besoin d'être retenu pour leur vie, ce qui va leur apporter une bénédiction pour cette semaine dans leur quotidien, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment se souvenir peut-être de phrases qui vont revenir dans la semaine pour les accompagner dans leur vie de prière, Seigneur. Encore merci pour tes bienfaits. Amen.